L'innocente 3. Chapitre 5. Sans doute, ce projet de départ, qui me mettait si fort en peine, était plus facile à concevoir dans un moment de colère qu'à exécuter, car il ne se réalisa pas. L'hiver passa sans amener aucun changement. Debout dans la neige, le château conservait son air de léproserie. L'un après l'autre, les vieux domestiques, blanchis au service de la famille, s'en allèrent. L'espèce d'interdit qui pesait sur leur maître, et dont ils participaient, leur devenait intolérable. Joseph, le valet de chambre, dont je revois dans mes souvenirs la tête vénérable, dont j'entends la voix chevrotante, vint expliquer ses raisons à mon père. « Ce n'est pas que madame la comtesse soit méchante, arguait-il, ni que j'ai rien à lui reprocher. Oh, certes pas, bien au contraire. Mais que voulez-vous, monsieur le docteur? Je ne peux pas supporter cette espèce de malédiction qui pèse sur nous. Je me ferais volontiers tuer pour mes maîtres. Mais cela, je ne peux pas. C'est trop pénible. Cela me rend malheureux comme si j'avais du remords. » Mon père plaida du mieux qu'il put la cause des abandonnés, et Joseph revint sur sa décision. Puis, après les autres, il finit par disparaître aussi. L'on sut qu'il s'était enfui sans rien dire, sans même réclamer ses gages, comme un soldat qui déserte. Ce qui fit plus de bruit encore que le départ des domestiques, ce fut celui de mademoiselle Éléonore, qui se réfugia chez madame Dormoise avant de s'installer à son compte. La vieille demoiselle parlait à peu près comme Joseph, mais avec âpreté et malveillance. J'assistai à l'entretien qu'elle eut avec ma mère, de mauvaises paroles, dont je devinais, plutôt que je ne les comprenais, les cruelles intentions, s'échappèrent de sa bouche mince, dont les coins tombaient. « Mon Dieu ! Disait-elle à peu près. « Je ne crois pas que ma nièce ait fait tout le mal dont on l'accuse. Oh non ! Mais enfin, il n'y a pas de fumée sans feu, n'est-ce pas, madame ? D'ailleurs, si elle n'avait rien à se reprocher, est-ce qu'elle s'inclinerait ainsi devant l'opinion publique ? Je ne me suis jamais tout à fait accordée avec elle. À présent que j'ai perdu tous ceux que j'aimais et qui m'aimaient, pourquoi resterais-je au château ? J'ai de bons amis qui ont juré de n'y pas remettre les pieds. Je finirai par les perdre. J'aime mieux me rapprocher d'eux. D'autant plus que là-bas, chère madame, on ne tient guère à moi. Je suis une vieille tante inutile, dont on ne regrettera guère d'être débarrassée. » Je crois que ma pauvre mère aurait bien voulu lui répondre, mais telle était sa faiblesse qu'elle n'aurait jamais osé la contredire. Elle se contentait donc de balbutier, sans conviction. « Oui, oui, sans doute, c'est bien naturel. » C'est ainsi qu'en une saison, le personnel du château se transforma. Au lieu des vieilles figures connues, des serviteurs qui participaient d'un peu de la considération qu'on avait pour leurs anciens maîtres, on en vit arriver de nouveaux, qui venaient de loin, comme les avocats, les avoués, les gens d'affaires. On leur trouva des mines louches, des allures fourbes. On regrettait ce pauvre Joseph qui était si comme il faut. Des bouches amères lancèrent l'adage « Tel maître, tel valet ». Que se passait-il, cependant, dans cette grande habitation triste, derrière ces murs épais qu'assiégeaient des ennemis invisibles, plus dangereux que les reîtres et les arbalétriers d'autrefois, entre ces trois êtres isolés, séparés du reste du monde. Je ne l'ai jamais su, bien que plus tard j'ai souvent calculé l'ennui de leur longue journée monotone, toute pareille, remplie par la peur sourde des dangers inconnus du dehors, par l'effroi de cette universelle réprobation qui enveloppait comme une nuée l'antique demeure, où, coupée de temps en temps par les éclats de colère du colonel qui s'exaspérait dans le vide. Il y eut là, sans doute, un drame de désolation. de révolte impuissante, d'ennui désespéré, d'indignation vaine qui tenterait peut-être ta plume de romancier. Pour moi, je ne puis qu'en soulever le voile en te rapportant quelques-uns des incidents dont j'ai conservé la mémoire. C'est d'abord, par un jour de neige, une sortie de l'école. 5 ou 6 gamins en gaieté, joyeux de toute la blancheur éparse autour d'eux, excités par le grand bonhomme qu'ils ont dressé dans la cour du collège, avec un ventre énorme, des jambes comme des colonnes, une grosse tête ronde, une pipe et des lunettes. Nous courons, nos cris ébranlent le silence des rues, où de rares passants glissent en soufflant dans leurs doigts. Quand tout à coup, notre bande folle aperçoit le petit Anthony des Plèges. Il attend la femme de chambre qui le promène et l'a quitté un instant pour entrer dans quelques boutiques. Tout frissonnant dans son pardessus et son cache-nez de laine, il regarde, peut-être avec envie, ses enfants qui pataugent gaiement dans la neige et se réchauffent en la maniant. Mais voici que l'un de nous le prend pour point de mire. Une balle vient s'aplatir sur son chapeau. Des rires éclatent, une voix crie « Tiens, le voilà, c'est lui, c'est lui !» D'autres balles suivent, plus serrées, avec d'autres cris. « Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi n'es-tu pas au château ?»«
Qu'il y reste ? Va-t'en, va-t'en !»
Le pauvre enfant, ne pouvant fuir, se tourne contre un mur et plie le dos sous l'avalanche. Cela se passe si vite que je regarde sans bien comprendre, sans prendre tout de suite un parti. Mais voilà que Frédéric Lambert s'approche de lui. Je vois son gros poing se lever sur le pauvre dos passif et résigné et retomber avec un « Tiens, voilà pour toi !» J'entends le bruit sourd du coup. Le poing se relève, la voix reprend « Voilà pour ta mère !» Alors, pris d'une colère folle, je me jette sur le mauvais garçon en criant « Lâche ! Lâche ! Lâche !» Mon fidèle ami, Étienne Anton, vient se placer à côté de moi et m'appuie. « Oui, Nathier a raison, vous êtes des lâches. Vous êtes 6 contre 1. Vous êtes des lâches. » Et il s'engage une bataille en règle qui fait sortir les bons horlogers sur le devant de leur boutique et permet à la femme de chambre d'accourir, de prendre Anthony par la main, de l'emmener tout pleurant. Et les bons horlogers, en le voyant passer meurtri, effaré, lamentable, murmurent « C'est bien fait !» Je rentrai fort agité à la maison, où je fis à mes parents le récit tout haletant de l'aventure. Ma mère écoutait, en secouant sa tête inquiète. Mais mon père m'embrassa. « Tu es un brave garçon, me dit-il. Tu as bien fait. Tes camarades se sont conduits lâchement. Il faut toujours défendre les faibles. » J'aurais voulu lui poser 1000 questions, que je me posais vainement à moi-même. Je demandais « Pourquoi donc en veulent-ils tant à Anthony et à ma marraine ?» Mon père leva les bras. « Ah, pourquoi » fit-il. « Pourquoi ? Les hommes ne savent pas, 1 fois sur 10, le pourquoi de leurs sentiments et de leurs actes. Veux-tu donc que des enfants soient plus habiles ?» Je dis « Ils sont méchants !» Et mon père « C'est peut-être bien la vraie explication. » Mais ma mère conclut « Sûrement, cela finira mal. » En sorte que mon imagination, frappée, demeura inquiète à se demander comment cela finirait, quelle catastrophe il y aurait au bout de ce drame dont j'ignorais la nature et qui ne se révélait à moi qu'à travers quelques manifestations relativement insignifiantes, comme la bataille des balles de neige. Un autre incident marqua le même hiver, ou l'hiver suivant, je ne sais plus au juste. Car si j'ai conservé le souvenir précis des faits, il se déroule dans un espace de temps incertain dont les divisions m'échappent. Ce fut l'arrivée au château d'une institutrice anglaise. Une grande fille, robuste, chevaline, capable au besoin de tenir tête à toute une bande de gamins et de jouer des poings comme un gendarme. Elle se nommait Miss Jenny. On la disait protestante, fille d'un clergyman et fort instruite. Il fut aussitôt décidé que je prendrais des leçons d'anglais avec elle, pour qu'Anthony ne fût pas seul. Quelque simple qu'elle parût, cette résolution fut vivement discutée entre mes parents. Ma mère, avec son habituelle timidité, craignait de s'opposer au courant. Je me rappelle qu'elle objecta « Ses camarades le battront !» et que mon père répondit, en se tournant vers moi, « Il a des points pour se défendre !» Je dis « Bien sûr !» car il me semblait que j'allais souffrir pour une grande cause, et j'étais prêt à tout. Les choses n'allèrent pas si loin. Ce fut à peine si j'échangeais quelques coups de poing avec Frédéric Lambert, qui, d'ailleurs, aurait trouvé sans cela d'autres raisons pour me chercher noise. J'eus en échange la joie de voir plus souvent ma marraine. Pendant les leçons qui se donnaient dans le grand hall que je t'ai décrit, elle venait, souple et lente, dans sa robe noire. Je l'attendais. Je devinais son pas léger dans le vestibule. Je tournais la tête avant qu'elle eût ouvert la porte. Elle me saluait d'un sourire douloureux, pareil à un pâle rayon dans un ciel de pluie. « Eh bien ?» demandait-elle. « Fait-on des progrès ?» Je sentais la caresse légère de ses lèvres qui effleuraient mes cheveux, de sa main qui tapotait ma joue. Miss Jenny répondait, avec son accent qui me donnait toujours envie de rire. Philippe est souvent distrait. La voix douce me grondait un peu. « Oh, Philippe !» Ce simple reproche me faisait monter des larmes aux yeux, mais je les refoulais et coulais un mauvais regard du côté de Miss Jenny, car je la détestais pour sa persévérance à me rabaisser devant ma marraine. Celle-ci, cependant, s'approchait d'Anthony, le caressait un instant d'un regard d'amour, se penchait sur ses cahiers, en épelait une ou deux phrases, et disparaissait, comme un fragile fantôme qui tient à peine à la terre. Et la leçon se poursuivait, monotone, insipide, intéressant pourtant mon frêle camarade, toujours prêt à se passionner pour tout ce qui peut s'apprendre. Il y mettait toute son âme, sa pauvre petite âme, qu'éprouvait les précoces dangers dont elle souffrait sans les comprendre, qu'oppressait une lourde injustice, qui jamais ne prendrait son essor dans l'inconnu du vaste monde. Moi, tout en annonçant les mots barbares, je songeais au furtif passage de ma marraine, et la voix aigre de Miss Jenny me disait « Voyons, Philippe, vous n'écoutez jamais. Faites donc attention. » Il y a dans nos bois un beau papillon qu'on nomme le sylvain. Tu pourras en voir un échantillon dans ma collection que tu dédaignes. Ses ailes sont couleur de deuil. Il a le vol rapide. Dans la tristesse de la forêt silencieuse, dans l'ombre humide des hêtres ou des sapins, dont les branches laissent de ci, de là, filtrer des ronds de lumière qui tombent sur la mousse épaisse ou sur les hautes fougères, il glisse et se perd presque aussi vite que les libellules. On ne sait d'où il vient ni où il s'enfuit. On dirait que l'ombre le produit et l'absorbe. C'est un petit morceau de ciel sombre, un flocon que des ailes emportent. Souvent, l'apparition de ma marraine me faisait penser au mystérieux papillon. Et quand, armée de mon filet vert, je poursuivais le sylvain, je pensais à ma marraine. Combien de fois n'ai-je pas esquissé dans mon esprit cette comparaison, pendant que Miss Jenny conjuguait ses verbes anglais. Plus tard, elle m'a frappée par sa justesse. La pauvre jeune femme et la petite chose ailée avaient en commun le deuil, le mystère et l'innocence. C'est pour cela que je n'ai jamais crucifié sur ma planchette de liège qu'un seul représentant du genre. Encore ne l'ai-je pas fait sans un sourd remords. Maintenant, bien que je sois resté chasseur zélé de papillons, je ne prends jamais le sylvain. Mais dans mes courses à travers bois, j'aime à le voir raser la mousse ou se dissiper dans l'air. Je ne pus m'empêcher d'interrompre Philippe et de lui dire « Tu es un poète ?» Il me répondit « Tu sais bien que non. » Et il continua. De temps en temps aussi, je voyais Madame Desplèges chez nous, seule ou accompagnée d'Anthony. Ma mère avait toujours un peu peur de la voir arriver, mais n'aurait point poussé la faiblesse jusqu'à lui marquer aucun des plaisirs. Au contraire, elle la recevait avec beaucoup d'égards et de sympathie, étant bonne. Mais le malheur voulut qu'un jour, la comtesse rencontra dans notre maison Madame Dormoise, venue pour traiter de l'organisation d'une vente de charité. Ce fut une scène pénible, dont le détail défraya pendant longtemps les conversations de mes parents. En voyant entrer la proscrite, Madame Dormoise se leva aussitôt, les lèvres pincées, le front ridé, sa petite bouche mince toute pleine de venin. « Nous reprendrons cet entretien une autre fois, madame, » dit-elle à ma mère, « et chez moi l'on y est en sûreté. » Là-dessus, elle sortit, irritée et majestueuse, laissant ensemble ma pauvre marraine, presque défaillante sous l'injure, et ma mère, qui perdit la tête, balbutia je ne sais quelle vaine parole, et demeura frappée d'épouvante, comme si elle eût commis un affreux crime d'imprudence. Elle en tremblait encore le soir en racontant l'histoire à mon père, qui se fâcha. « Madame Desplèges, déclara-t-il, vaut mille fois mieux que toutes ces pécores. Je n'entends point qu'on la leur sacrifie. Tu ne t'occuperas plus de cette vente et tu ne mettras pas les pieds chez Madame Dormoise. Je te le défends. » Jamais ma mère n'aurait consenti à un tel éclat. Elle laissa passer l'orage et dès le lendemain, s'en fut, sans rien dire, chez sa terrible visiteuse. Elle en revint bouleversée. « Après tout, arguait-elle, ces affaires ne sont pas les nôtres, et nous ne pouvons pourtant pas nous fâcher avec toute la ville. » Mais mon père haussait les épaules et répliquait « Madame Desplèges a raison contre tous. J'entends qu'elle vienne chez nous quand il lui plaît. » Il n'en est pas moins vrai qu'à partir de ce jour, les visites de ma marraine furent plus rares et plus courtes. Plus tard, j'ai su que l'indépendance de mon brave père, en cette occurrence, lui avait coûté plusieurs de ses meilleurs clients. Il est vrai qu'ils revinrent, ramenés par la maladie. Et il y en a dans le nombre que j'ai soigné aussi. J'ai causé quelquefois avec eux de Madame Desplèges, mais n'anticipons pas. Chapitre 6. Comme bien on pense, l'existence qu'on menait au château ne convenait point à la chétive santé d'Anthony. Entre son grand-père rageur et morose et sa mère attristée et craintive, le pauvre enfant croissait comme une plante qui manque de lumière. Son unique distraction, en dehors de l'étude, c'était de jouer avec moi, deux fois par semaine, après les leçons d'anglais. Et nos jeux manquaient d'entrain. Je tâchais de lui apprendre à s'amuser, car il ne savait pas. Je n'y réussissais guère. Dès que nous avions couru quelques minutes, il était hors d'haleine ou couvert de sueur. Il possédait une petite charrette qui faisait ma joie. Je m'y attelais, je le traînais dans le parc. Lui, c'est à peine s'il faisait claquer son fouet et crier de temps en temps « Hue donc !» Mais quand il voulait s'atteler à son tour, cela ne marchait plus du tout. Il allait un instant au trot, puis se mettait au pas, et si je tâchais de l'exciter, s'arrêtait, se tournait vers moi et me disait avec un pâle sourire « Non, vois-tu, Philippe, je suis un mauvais cheval, décidément. » Alors il enlevait ses brides et s'asseyait tristement au bord du chemin. Seule la lecture le passionnait. Il dévorait tout ce qui lui tombait sous la main. Et il devenait un être étrange, d'une incroyable précocité pour certaines choses, prodigieusement arriéré pour d'autres. Il ignorait tout ce qui ne se trouve pas dans les livres et possédait une foule de connaissances bien au-dessus de son âge, en histoire, en géographie, en voyage, en poésie. Sa petite âme vibrait à ces excitations du dehors, qu'elle accueillait comme des réalités immédiates et présentes. Il possédait par exemple une traduction illustrée de « La Jérusalem délivrée ». Je crois vraiment qu'il vécut tout le poème, tant il le relut avec passion. Pendant un temps, il ne parlait pas d'autre chose, il en rêvait. Tancrède, Clorinde, Soliman, Sophronie étaient pour lui des êtres vivants, qu'il rencontrait dans tous les coins du parc, qui lui révélaient l'inconnu de la vie, qui remplissaient sa solitude de songes maladifs, d'héroïsme ou d'amour. Il était un chevalier, il conquérait le Saint-Sépulcre, il délivrait des princesses, il abattait des sarrasins. Hélas, au bout de tous ces rêves, auxquels son ardente imagination donnait une intensité extraordinaire, il se retrouvait, selon la réalité, un pauvre enfant malingre, enfermé par des ennemis invisibles dans un château où un méchant enchanteur tourmentait sa mère et lui-même, sans qu'il soupçonnât seulement par quelles armes il pouvait le combattre. Avais-je quelque amitié pour lui? Je ne crois pas. Il m'étonnait, il m'effrayait aussi, car j'entendais quelquefois mon père, en revenant du château, dire à ma mère « Jamais elle n'élèvera cet enfant, il lui faudrait une toute autre vie. » Ce fut sur ces conseils pressants qu'ils résolurent enfin de passer un hiver en Italie. Mon père eut beaucoup de peine à les décider. Le colonel faisait opposition. « Nous aurions l'air de fuir, » répondait-il à toutes les bonnes raisons. Quelquefois, il ajoutait « Devant ces canailles !» Il entendait résister, lui, à ces lâches ennemis insaisissables, dont les coups portaient sans qu'on les sentît, qui tuaient de loin avec des poisons sûrs. Résister en vaillant soldat qui se laisse tuer sur une position désespérée. Mais sa conception de l'honneur, héroïque et médiocre, n'était point celle de la comtesse. Mère avant tout, elle voulait conserver son fils. Peu lui importait l'opinion des autres, les commentaires infinis, qui, dès son départ connu, circuleraient par les rues. Elle dit, volontaire, je crois, pour l'unique fois de sa vie, « Le médecin ordonne, il faut. » Le colonel céda, ils partirent. Alors, on respira dans la ville, comme si une épidémie se fût éloignée. Tu entends d'ici les congratulations des commères. Enfin, les voilà partis. Cela n'est pas trop tôt, ma chère. Ils ont compris que leur place n'est point parmi d'honnêtes gens. Où sont-ils? Est-ce qu'on sait? Dans le Midi, en Italie, plus loin peut-être. Probable qu'ils ne reviendront pas. Bon débarras. À plusieurs reprises, Madame d'Ormoise essaya d'interroger ma mère sur leurs actes et leurs projets. Mais ma mère, toujours prudente, était aussi discrète. Elle ne dit pas même où ils étaient, bien qu'elle reçût des lettres de la comtesse, des fleurs et, à Noël, un cadeau pour le vaillant filleul. On en fut donc réduit aux renseignements de Mademoiselle Éléonore, qui n'étaient jamais que des insinuations, contradictoires et mystérieuses. La vieille fille, après avoir longtemps hésité, tergiversé, exécuté de savantes manœuvres entre les deux camps, espion des uns et des autres, et versant de l'huile sur le feu, avait passé définitivement à l'ennemi. Rancune, envie, simple méchanceté, qui le dira? On ne sait jamais ce qui se passe dans ces âmes malsaines d'êtres dévoyés et tortueux, qui cherchent à nuire avec inconscience, pareils à ces insectes malpropres dont le seul attouchement couvre la peau d'ampoule. Mademoiselle Éléonore était une de ces âmes-là. Longtemps, dans son cercle de famille, elle avait retenu et caché son venin. Libre maintenant, elle se délectait à le répandre. Il coulait abondamment de ses lèvres onctueuses, empoisonnant la plaie ouverte. Toutes sortes de bruits perfides venaient d'elle, d'autant plus dangereux qu'elle ne précisait jamais. Ces paroles pouvaient toujours s'interpréter de 3 ou 4 manières différentes. On leur donnait, cela va de soi, l'interprétation la plus fâcheuse. Mademoiselle Éléonore la laissait circuler en liberté, souffrait qu'on la lui rapportât, l'appuyait de ses soupirs et de ses roulements d'yeux, puis, un beau jour, la démentait. Mais le mal n'en était pas moins fait. La calomnie laisse toujours quelques traces après soi. Ce fut ainsi que la rumeur courut avec persistance que mon fâcheux cousin Jacques Nattier avait rejoint la comtesse et qu'ils partaient ensemble pour l'Algérie. Au bout de quelque temps, on sut que Jacques n'avait pas bougé de Mâcon où ses fonctions le retenaient, et l'on boucla l'affaire en ces termes. D'ailleurs, mademoiselle Éléonore affirme qu'il n'y a plus rien entre eux. D'autres racontars circulèrent. Une personne de Bourg les avait rencontrés à Venise, en gondole, avec un prince italien. Qu'en dit mademoiselle Éléonore ? Mademoiselle Éléonore ne sait rien. Sa nièce ne lui écrit donc jamais ? Oh, si fait, seulement elle ne lui raconte pas ses petites affaires. Heureusement que mademoiselle Éléonore est fine, elle sait lire entre les lignes. Une autre fois, on raconta qu'ils s'étaient amusés comme des fous au carnaval de Nice. On donnait des détails, et on jugeait. En tout cas, il fut admis que madame Desplèges avait abandonné son attitude de veuve désolée et jouissait de la vie à sa manière. Ici, elle n'aurait jamais osé, mais là-bas. On affirma même qu'elle dévorait à belles dents la fortune de son fils. Quelques personnes charitables insinuèrent « N'y aurait-il aucune précaution à prendre pour sauvegarder les intérêts de l'enfant ? Les amis ou la famille pourraient peut-être... » D'autres interrompaient. « Pourquoi la famille s'intéresserait-elle à cet enfant ? Vous savez bien... » Un geste de mépris terminait la phrase et amenait un « C'est juste !» Puis on reprenait en chœur. D'ailleurs, ces gens ont rompu toutes les attaches qui les retenaient à nous. Mademoiselle Éléonore n'a plus de nouvelles d'eux depuis longtemps. Vous verrez qu'ils ne reviendront pas. Cependant, ils revinrent, au printemps. Ils revinrent tels qu'ils étaient partis, bien qu'un peu moins tristes. Antony avec quelques couleurs aux joues. Ma marraine avec des retours de son cher sourire d'autrefois. Et l'on épiait leurs visages, et les propos allaient leur train. Pourquoi sont-ils revenus ? Est-ce que quelque chose les y oblige ? Ils narguent l'opinion. Ils nous bravent. Est-ce que mademoiselle Éléonore les a vus ? Sans doute, elle est allée au château. Ah, vraiment, elle est allée au château ? Et que dit-elle ? Elle dit... Fidèle à sa méthode, elle ne disait rien, mais elle laissait tout dire. Et son attitude prêtait quelque vraisemblance aux propos les plus aventurés. Peu de temps après leur retour, un incident extraordinaire mit la ville en émoi. À la suite de faits que je n'ai jamais connus, peut-être simplement dans un accès d'exaspération trop longtemps contenu, le colonel Marian administra une formidable raclée en pleine rue à l'un des fils Lédiguette. J'assistais à la fin de la scène. J'aperçus, au milieu d'un cercle de boutiquiers accourus au bruit en abandonnant leurs établis, la victime, dont de bonnes femmes bassinaient la figure ensanglantée, tandis qu'à l'écart, le vieux vétéran, fumant de son exploit, les bras croisés sur sa poitrine, promenait sur les assistants des regards vainqueurs chargés de menaces. On l'observait à la dérobée, mais personne n'osa s'approcher de lui. Il comprenait que ses poings vigoureux ne demandaient qu'à recommencer l'exercice, et qu'avec allégresse, il sonnerait sur leur dos la charge interrompue, heureux de soulager sa longue humiliation par un acte de vigueur. Tu connais le dicton. Poignet vilain, il vous oindra. Un moment, on put croire qu'il allait se trouver juste une fois de plus. L'acte énergique du colonel produisit d'abord un revirement salutaire. Ceux qui s'étaient le plus avancés devenaient prudents, se frottaient les côtes par anticipation, tenaient leur langue. On mit une sourdine au commérage. On ne parlait plus qu'à voix basse, en regardant autour de soi, pour s'assurer que le colonel n'était pas tout prêt avec sa canne. On avait peur, en un mot. Mais le battu porta plainte. La justice intervint. Le colonel fut condamné à une forte amende. De sorte que les vaincus, se sentant soutenus par les gendarmes, reprirent courage. Tout le monde se réjouit de la condamnation, dont la sévérité, semblait-il, écartait un péril public. Quelques bonnes dames insinuèrent « Une amende ne suffit pas, on aurait dû le mettre en prison. » Mademoiselle Éléonore gémissait que depuis l'époque des croisades, jamais un des plèges ni aucun de leurs alliés n'avait eu de casier judiciaire. Et l'on répétait « Après un tel scandale, ils ne pourront plus rester au pays. Cette fois, il faudra bien qu'ils partent. » Chapitre 7. Eh bien non, ils ne partirent pas. Il fallait que des liens bien solides les attachassent à ce coin de terre où le hasard les avait un jour poussés, où la vie les avait un instant inclinés vers le bonheur et qui n'était plus pour eux qu'un cabinet de torture. Car enfin, se figure-t-on l'existence de ces trois pauvres êtres, seuls avec eux-mêmes, isolés au milieu de la haine qui les assiégeait dans leur château abandonné? Ils représentaient les trois âges de la vie, dont chacun a besoin d'affection, de sociabilité, de compagnie. Il faut que l'enfant s'épanouisse parmi les enfants, ses complices en insouciance, en joie, en gaieté. Il faut au vieillard des compagnons de causerie qui l'aident à remuer la cendre des souvenirs, à tuer la monotonie des lentes soirées qui précèdent sa dernière nuit. Et qu'est-ce que la jeunesse d'une femme lorsqu'elle se consume dans le deuil, la tristesse, l'ennui? Oh, ma pauvre marraine, quelles années vous avez passées là, tout près de cette maison où règne votre image, à deux pas de votre filleule qui grandissait, tournait au gamin, et si même il vous oubliait souvent pour sa toupie, vous gardez au fond du cœur une dévotion où il y avait comme un germe d'amour inconscient. Je la savais malheureuse, sans comprendre la cause de sa douleur, je l'en aimais davantage. De grands airs de chevalerie allumaient en moi la folle envie de la secourir dans sa détresse ignorée. J'imaginais des romans où je me battais pour elle, ou bien, la sentant accusée sans savoir au juste de quoi, je faisais éclater son innocence et la ville tombait à ses pieds. Rêve d'enfant dont on ne surveille pas assez les lectures. Je crois que, son innocence eût-elle été 10 fois démontrée, la ville n'aurait pas désarmé. L'aventure supposée de Madame Desplèges avait provoqué dans son milieu une crise de vertu aiguë, qui s'excitait, s'irritait, s'exaspérait à ses dépens, non sans ressembler, en petit, à ces crises de folie dévote qu'enregistre l'histoire. Elle en était la victime expiatoire. On la chargeait de toutes les fautes, pour qu'elle les expiât et qu'on pût s'en absoudre. Sa légende grossissait. On l'agrémentait d'histoires abominables sur son passé, que je ne répéterai même pas. À quoi bon? Lâchée sur une piste coupable, l'imagination des honnêtes gens devient terrible. Elle franchit toutes les barrières. Elle se grise d'elle-même comme un cheval devant. Et malheur à ceux qu'elle poursuit. Elle, cependant, avec peut-être le sentiment que les infamies dont on l'accablait pourraient atteindre jusqu'à son âme, luttait de son mieux pour en écarter le contact. Autour d'elle, dans le cercle étroit qui lui restait, elle trouvait des ressources, des points d'appui, des objets pour occuper sa tendresse, pour exercer sa bonté. Elle avait son père, dont la haute taille se voûtait peu à peu, comme si elle eût plié sous un poids trop lourd, et dont il fallut bientôt soutenir la démarche lente et lasse. Elle avait son fils, pauvre être qui exigeait des soins infinis, d'ailleurs d'une sensibilité maladive, idolâtre de sa mère, attendant d'elle toujours l'air et la vie qu'elle semblait lui faire au jour le jour, tout exprès pour ses poumons fragiles, pour son cœur irrégulier. Elle avait notre famille, où elle trouvait un accueil amical et réconfortant. Elle avait ses pauvres. Et quels pauvres, mon ami ! Non pas des pauvres professionnels, dressés pour satisfaire aux besoins de la charité courante, propres, ragoûtants, sachant se plaindre et dire merci, comme il en existait quelques-uns au Plège, pour occuper les loisirs de Madame d'Ormoise et de ses amis. Mais de vrais pauvres lamentables, grossiers, abrutis par la misère, abandonnés de tous. Elle n'aurait pas osé s'adresser à ceux de la ville, par crainte de les compromettre. Elle allait les chercher loin, dans des villages, dans des masures isolées. Elle les trouvait malades et les soignait. Elle leur apportait, avec des secours, de bonnes paroles. Ils l'adoraient. Mais ils étaient peu nombreux et totalement dépourvus d'influence. Leurs voix compteront au tribunal du Seigneur. Devant la justice des hommes, elles n'ont point de prix. Et la bonté même qu'elle leur témoignait lui valait des censures, car elle n'était point bonne comme les autres dames de l'endroit qu'offusquait la nature de sa bonté. Je me souviens d'une anecdote qui fera comprendre ce que je veux dire. Il y avait en ce temps-là une orpheline dont le père avait été tué dans un incendie. C'était une jolie fille qu'on appelait Annette. Élevée aux frais de la ville, en reconnaissance de la mort vaillante de son père, elle travaillait comme couturière dans les meilleures maisons, en attendant qu'elle trouvât à se marier. On la payait mal, de peur de lui gâter le caractère ou d'éveiller en elle des ambitions malsaines. Mais on lui témoignait quelques égards. On lui faisait de petits présents, on l'invitait les jours de fête, on l'asseyait au bout de la table, en d'éternelles robes grises qui la désolaient, parce qu'elle était coquette. Le gris étant la nuance de sa condition, il fallait bien qu'elle portât du gris, n'est-ce pas? Ses fraîches couleurs, ses cheveux noirs, ses jolis yeux de velours s'en accommodaient comme il pouvait. Dans son genre, Annette était un personnage. On s'occupait énormément d'elle. On prenait chaque semaine la mesure de sa vertu. On commentait ses paroles, ses gestes, son air, à l'infini. J'ai bien entendu prononcer 1000 fois, avec une inquiétude où il y avait certainement plus de malveillance que de charité, cette phrase menaçante « Est-ce qu'Annette se gâterait ?» Et des lèvres minces se pinçaient, et des têtes sévères hochaient, et des yeux roulaient ou se levaient au plafond, et cette mimique signifiait toujours « Si elle n'est pas encore gâtée, la pauvre fille, elle se gâtera, cela ne peut manquer d'arriver. Nous perdons notre peine à vouloir la sauver. » Or, il arriva qu'un dimanche de Pâques, à l'église, la ville entière put constater qu'Annette avait posé son uniforme gris. Elle portait une robe claire, une robe de jaconat, une robe à fond blanc semée de petits bouquets, et elle avait des fleurs à son chapeau. Le service en fut troublé. À la sortie, on ne parla pas d'autre chose. « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cela veut dire ?»« Ah, ma chère, cela devait arriver. Annette est perdue. Nous qui avons tant fait pour la maintenir dans le bon chemin. J'ai toujours dit que cet enfant... » Tu entends se croiser les jugements sympathiques. Mais le scandale devint énorme quand on apprit que cette malheureuse robe, avec le ruban qui servait de ceinture et les fleurs du chapeau, venait de Madame des Plèges. Mon Dieu, oui, ma chère marraine avait eu l'idée néfaste de faire à cette jolie fille une aumône de luxe, pour égayer une fois, dans la saison où les prés fleurissent, ses yeux de velours et son cœur de 16 ans. Tel était son nouveau crime. je n'ai pas besoin de te dire les anathèmes qu'il lui valut. Sache seulement que les protectrices d'Annette intervinrent, l'accablèrent de reproches, la menacèrent de lui retirer à jamais leur précieuse bienveillance. La robe fut donc abandonnée. Annette ne la porta plus jamais, reprit son gris uniforme et ne retourna plus au château. Et Madame d'Ormoise prononça « Nous n'admettons pas qu'elles pervertissent les personnes que nous aimons. » Comme tu le vois par cette historiette, il y avait un irréductible malentendu entre ma tendre marraine et notre ville. Je le comprends bien à présent. Si ces gens ne l'avaient pas soupçonné du crime qui, à leurs yeux, est le pire de tous, ils l'eussent accusé d'autre chose. Il ne se pouvait pas qu'elle ne fût pas leur victime. Quand j'y pense, je trouve qu'il n'y a pas lieu de leur en vouloir pour cela. Les animaux d'une certaine espèce n'acceptent point parmi eux les représentants d'une espèce étrangère. Te représentes-tu le sort d'un insecte ailé tombé dans une fourmilière ? Dévoré, mon cher, en un instant, avant d'avoir pu reprendre son essor. Pourtant, les fourmis sont de bonnes petites bêtes, laborieuses, douées de toutes les qualités bourgeoises, qui pourraient, à beaucoup d'égards, nous servir de modèle. Dans le cas présent, les occasions d'affirmer leur cruauté manquaient à nos fourmis féroces. Elles en avaient une, pourtant, dont elles surent profiter. La messe. Oui, mon cher, à ce moment-là, le seul où Madame Desplèges fut mêlée à leur armée agressive, elles oubliaient que le dieu qu'elles venaient adorer a recommandé la charité et s'est réservé le droit exclusif de juger nos actes et nos cœurs. Elles jugeaient et signifiaient leur jugement. Elles avaient des attitudes, des chuchotements, des regards, des airs qui exprimaient mieux que des paroles leur mépris et leur rancune. Notre bon curé s'en désolait, mais qui pouvait-il faire? À deux ou trois reprises, il prêcha sur des textes indulgents ou hasarda dans ses prônes quelques allusions. Peine perdue. Ma pauvre marraine, qui trouvait quelque consolation dans la maison de Dieu, se la vit à la fin fermée par les méchantes gens. Et quand elle cessa de fréquenter l'église, les plaisants s'en réjouirent comme d'une victoire pour la bonne cause. Du reste, à chaque instant, quelque incident nouveau survenait pour entretenir ou ranimer l'effervescence. Ainsi, le bruit se répandit un jour que Mademoiselle Éléonore, qui continuait à voir de temps en temps sa nièce, ne fût-ce que pour augmenter la créance de ses calomnies, avait été mise à la porte du château. On se refusa d'abord à le croire. Il fallut pourtant bien se rendre à l'évidence, quand elle-même fit, à sa manière, le récit de sa mésaventure. C'était un acte d'énergie du colonel qu'exaspéraient les aigreurs doucereuses de la vieille fille, ou qui avaient eu vent de ses propos venimeux. Ayant remarqué qu'après chacune de ses visites, la comtesse Micheline pleurait davantage, il s'était soudain relevé de son affaissement, pour l'exécuter, sans aucun ménagement d'ailleurs, avec une brutalité de soldat en fureur. Sans se départir de son exaspérante onction, Mademoiselle Éléonore colportait de maison en maison le détail de la scène. « Il m'a traité de... » disait-elle. « Non, jamais je ne répéterai ce mot-là. » Je lui ai répondu « Eh bien, monsieur, si je suis de trop ici, je ne reviendrai plus. » Alors il m'a répliqué avec d'abominables jurons « J'espère bien, nom de... Et vous allez partir, et plus vite que cela. » Et comme je voulais lui répondre, il m'a prise par le bras. « Oui, ma chère, il a osé porter la main sur moi. » À chaque fois qu'elle recommençait son histoire, on levait les yeux au ciel, on s'écriait « Est-il possible ? Porter la main sur vous ? Est-il possible ?» Larmoyante, elle gémissait. « La maison où j'ai vu mourir mes parents, mon frère, tous les miens, la maison où se passa mon enfance, il m'en a chassée, je ne la verrai plus. » Tous sentaient l'outrage fait par l'intrus à celle qui seule représentait à leurs yeux l'ancienne et glorieuse famille dont le pays s'honorait. Ma mère en pleura, mon père en fut atterré. « Monsieur Marian a eu tort de manquer de patience, disait-il. On doit supporter beaucoup des siens. » Pourtant, il ajoutait, « Il est vrai qu'à sa place... » Il n'en disait pas davantage, et je t'assure que c'était déjà beaucoup. Chapitre 8. Vers ce temps-là, pour des raisons que j'ignore, Miss Jenny nous quitta. Elle ne fut pas remplacée, et cette embarrassante question se posa. Que faire d'Anthony? Impossible de l'envoyer à l'école de la ville, il eût été massacré. Pourtant, il approchait de sa 12e année. Il fallait l'instruire. Sa mère se mit au travail avec lui. Tâche difficile et charmante, qu'allégeait l'intelligence de mon petit camarade, son application, sa curiosité de savoir. Mais je n'avais plus accès aux leçons. Anthony, que je voyais plus rarement, me les racontait, et j'avais la vision d'un monde nouveau, mille fois plus intéressant que celui où m'introduisait l'école. En ville, cependant, ces leçons maternelles constituaient un nouvel objet de reproche et de plaisanterie. On en escomptait le résultat probable. Que peut-elle lui enseigner? Que sait-elle? Jamais les plaisants n'auraient soupçonné que les mères savent toujours tout ce qu'il faut que leurs enfants apprennent. Aux approches de l'hiver, le bruit de leur prochain départ se répandit. C'était une fausse nouvelle, ils restèrent. Et j'entends encore ma marraine expliquer à ma mère pourquoi leur gracieux voyage ne se renouvelait pas. Je jouais dans un coin du salon sans faire de bruit. On ne songeait pas à ma présence, où l'on me croyait tout occupé de mes soldats de plomb. Et je dressais les oreilles, sans perdre un mot de l'entretien. Les deux femmes étaient assises, à côté l'une de l'autre, comme deux amies, dans une pose intime, sur le vieux canapé à galerie, recouvert de reps grenats, que j'ai toujours conservé tel quel en souvenir de mon enfance. Ma mère avait été plus affectueuse que de coutume. Madame Desplège s'ouvrit davantage, étant encouragée, et prolongea sa visite. Elle parlait de son fils. Elle raconta son zèle et sa sagesse, en s'extasiant avec un peu de crainte, le trouvant trop raisonnable pour son âge. De temps en temps, elle répétait, sans s'apercevoir qu'elle l'avait déjà dit plusieurs fois, « Je vous assure, chère madame, que c'est un enfant délicieux. » Puis, elle en vint à dire son gros souci du lendemain. Car enfin, elle ne pouvait songer à le garder toujours auprès d'elle, puisqu'il faut qu'un homme se prépare à la vie. Et elle s'assombrit. Et elle s'efforça de repousser le plus loin possible cette angoissante pensée. « Il est encore si petit, » disait-elle. Ma mère dit, pour lui faire plaisir, « Oh, sans doute, vous avez du temps devant vous. » Mais elle secoua la tête sans répondre. Ses yeux perdus semblaient fixés sur ce coin mystérieux de l'avenir dont elle venait ainsi de soulever le voile. Pour l'attirer de cette dangereuse rêverie, ma mère demanda, comptant sur une réponse affirmative, « Vous retournez en Italie cet hiver, n'est-ce pas ?» Je jetai un coup d'œil du côté des deux causeuses et je vis, oui, je vis une larme briller dans les yeux de ma marraine. Elle hésita un instant avant de répondre lentement « Non, pas cet hiver, nous n'irons pas. » Elle restait immobile, les mains posées sur ses genoux, les regards perdus. Après un long silence, elle reprit en baissant la voix « Nous ne pouvons pas. » Et plus bas encore, si bas que j'entendis à peine « Nous ne sommes plus assez riches pour voyager. » Ma mère ne put réprimer un geste d'étonnement, presque de doute. La comtesse ajouta « Oui, nous avons fait de grandes pertes. » Puis, se reprenant en tâchant de sourire et d'égayer sa voix, « Il ne faut pourtant pas trop nous plaindre, chère madame. Il va sans dire que si la santé d'Anthony l'exigeait absolument, nous nous arrangerions, mon père et moi. Mais grâce à Dieu, ce n'est pas le cas. Il va mieux, beaucoup mieux cette année. Votre mari lui-même, qui est toujours un peu pessimiste, nous rassure. Alors, vous comprenez, j'en profite pour faire des économies. » En ce moment, elle regarda de mon côté. Je n'eus pas le temps de détourner mes yeux stupéfaits. Elle comprit que j'écoutais, fit un signe à ma mère, qui allait lui répondre et qui baissa la voix. Et leur conversation se perdit dans un chuchotement imperceptible. Un moment après, elle se levait pour partir. Elle m'appela « Filleule, viens m'embrasser !» J'accourus, elle se pencha sur moi et me caressa les cheveux du geste que j'aimais. « Il ne faut jamais écouter ce que disent les grandes personnes !» me dit-elle. Quoiqu'elle parlât bien doucement, je me sentis rougir. Mais pour rien au monde, je n'aurais consenti à ignorer ce que je savais maintenant. Les paroles de ma marraine m'avaient plongé dans une véritable stupeur. Pour moi, les habitants du château étaient des êtres d'une essence supérieure, un peu parents des princes de contes de fées. Voici que, soudain, je les découvrais astreints à de communes misères. Ce fut comme un coup de lumière douloureuse tombant sur la vie, comme une éclaircie ouverte à mes regards d'enfant sur l'universelle souffrance. Le soir, à dîner, mes parents commentèrent ensemble cette étrange confidence. Mon père, l'air attristé, jouait avec son couteau en écoutant le récit de ma mère, qui lui demanda « Savais-tu ? » Il répondit « Je m'en doutais. » D'un ton de compassion profonde, il murmura « Pauvre femme !» Après avoir rêvé un instant, il reprit « Il ne faut pas qu'on s'en doute. Prends bien garde de n'en parler à personne. » Puis, se tournant vers moi, « Toi aussi, Philippe, si par hasard tu as compris. » La recommandation était superflue. J'avais compris, j'avais senti. Je me serais fait hacher en morceaux plutôt que de dire un mot qui pût nuire à ma marraine, en lui enlevant le dernier reste de prestige, peut-être, qu'elle conservait aux yeux de ses ennemis, celui de sa fortune, dont ils ignoraient encore l'écroulement. Mes idées, comme toujours celles des enfants, étaient simplistes. Pour moi, gêne, manque d'argent, équivalait à misère. L'exclamation de mon père, « Pauvre femme !» prenait un sens littéral qui me terrifiait. Je m'imaginais ma marraine chassée du château par les huissiers et procureurs, gens redoutables dont je connaissais vaguement l'existence. Je passais de fort mauvais jours à me figurer sa destinée. Un incident me rassura. J'appris qu'un des professeurs du lycée, M. Lanternier, était appelé à donner des leçons particulières de latin à Antonie. J'en conclus aussitôt que la situation n'était point aussi désespérée que je l'avais cru, car des leçons particulières représentaient pour moi une dépense considérable. Ce M. Lanternier était un pauvre garçon, dont le maigre traitement nourrissait une mère et deux sœurs cadettes. Long, maigre, osseux, la figure glabre, les yeux étonnés derrière des lunettes teintées, timide comme le sont volontiers les êtres faibles et dépendants, il nous paraissait un peu ridicule. Les plus turbulents d'entre nous en avaient fait leur souffre-douleur. Les désordres de sa classe étaient légendaires, en sorte qu'il tremblait toujours d'être blâmé par le proviseur, ou déplacé, et de ce chef, condamné aux frais d'un déménagement. Quand on sut que, trois fois par semaine, il prenait le chemin de la demeure maudite, les taquineries redoublèrent. Excité, l'imagination de ces bourreaux trouva des supplices raffinés. J'ai vu le malheureux pleurer, au milieu du tumulte déchaîné où s'agitait son impuissance. Et puis, l'opinion publique ne tarda pas à s'en mêler. L'opinion publique jugea que M. Lanternier, chargé de l'éducation intellectuelle et morale de la jeunesse de la ville, ne pouvait nager dans les eaux de la dangereuse sirène qui avait perdu mon cousin Jacques.
Il y avait là, tu comprends, un péril qui intéressait l'honneur de tout le monde. Or, un membre de l'université doit compter avec l'opinion publique. Monsieur Lanternier céda, et la combinaison fut abandonnée. Mon père en trouva une autre, que seule la considération dont il jouissait fit accepter. Il fut convenu qu'Anthony viendrait chez nous et prendrait en ma compagnie les fameuses leçons de langue morte. Je n'avais aucun goût pour les études classiques. Néanmoins, je me prêtais de bonne grâce à un arrangement que je devinais agréable à ma marraine. Tout ce que je faisais pour Anthony me causait une joie extrême. À vrai dire, avec ses allures craintives, son application, son peu de goût pour les jeux bruyants, il s'éloignait assez du type garçon qui m'aurait convenu. Mais je l'aimais pour sa mère. Et puis, ses leçons, dont l'objet me laissait très froid, prirent bientôt pour moi un intérêt inattendu. Elles m'apprirent à connaître M. Lanternier. Au collège, je le trouvais, comme les autres, ridicule. Je ne soupçonnais pas qu'il pût avoir aucun mérite, et je le méprisais. Dans l'abandon des heures que nous passions ensemble, dans la joie qu'il avait de trouver en Anthony un esprit capable de s'ouvrir à sa manne, je découvris peu à peu un homme tout différent de celui que je me figurais, dont la bonté réservée et l'intelligence discrète finirent par exercer sur moi un véritable ascendant. J'ai gardé un souvenir exquis de ces heures à trois, passées sur un texte de Virgile. Dehors, la bise soufflait éperdument. Dans notre chambre, il faisait bien chaud. Je déchiffrais tant bien que mal les vers difficiles, et je voyais devant moi la figure d'Anthony, le front barré d'efforts et d'attention, tandis que M. Lanternier, avec un sourire enchanté, suivait les tâtonnements de sa traduction. Parfois, mon camarade s'écriait « Que c'est beau !» J'en demeurais abasourdi, car Énée, Tournus, la reine Amata, Lavinie elle-même, m'ennuyaient à périr. Mais lui vivait avec eux, tremblait de leurs dangers, frémissait de leurs passions, de toutes les forces vibrantes de sa petite âme ardente et comprimée. Quand sa mère venait le chercher, il se jetait dans ses bras, rayonnant d'enthousiasme. « Oh, maman, c'était si intéressant aujourd'hui !» La figure de M. Lanternier rayonnait aussi. Quelquefois, ma marraine me demandait « Et toi, filleule, qu'en penses-tu » Alors je balbutiais quelque chose et je baissais le nez, honteux de manquer d'enthousiasme. Pour me consoler, M. Lanternier disait, gentiment, « Philippe se donne aussi beaucoup de peine. » Ma marraine concluait, « Oui, Philippe est un bon garçon. » Ce qui m'humiliait un peu. Cependant, si l'opinion publique avait interdit l'accès du château à M. Lanternier pour les raisons que tu connais, elle voulut bien permettre que Mademoiselle Lady Guette y alla donner des leçons de musique. Je t'ai déjà parlé, je crois, de cette vieille fille, cousine pauvre et intraitable de ses riches parents, sur lesquels elle éprouvait un malicieux plaisir à faire rejaillir l'humilité de sa condition. C'était une mince petite personne, sèche, rêche, un peu bossue, le profil en lame de couteau, la langue agile et pointue. Elle fut enchantée de pouvoir répéter à tout venant « Sans doute, j'aimerais mieux éviter ces gens-là, mais que voulez-vous ? Je suis obligée de gagner ma pauvre vie. Je ne puis pas juger les mains qui me nourrissent. » On abondait dans son sens en s'apitoyant sur l'injustice de sa destinée, d'autant plus volontiers qu'on obtenait d'elle quelques éclaircissements sur ce qui se passait au château. Le rôle que l'énergie du colonel Marian avait enlevé à Mademoiselle Éléonore lui fut dévolu. Elle s'en acquitta tout aussi bien. À vrai dire, il ne se passait rien. De sorte que l'imagination de Mademoiselle Lady Guette faisait tous les frais de ses racontars. Elle s'exerçait tour à tour aux dépens du père, de la mère et même du petit-fils.
À l'en croire, le colonel était un homme terrible. La bouche toujours pleine de jurons, capable de tout. Qu'elle chargeait évidemment de ce que ses souvenirs lui rappelaient des grognards et des demi-soldes de son enfance. Anthony, fort malade, était affreusement gâté et recevait d'ailleurs une éducation contraire à toute espèce de bon sens. Quant à la comtesse, c'était une âme aigrie, pleine de sentiments abominables. « Elle est ulcérée, ulcérée, je vous dis, ulcérée, elle hait la ville, elle vous hait tous, oh, si elle pouvait !» Savoir ce que pensait la comtesse Micheline, c'était déjà quelque chose. Mais cela ne suffisait pas aux curiosités âpres des plaisants. Aussi demandait-on « Et que fait-elle ?» Mademoiselle Lady Gate eût été bien embarrassée de le dire. Elle recourait donc à l'arme habituelle de la réticence. Elle roulait les yeux, pinçait les lèvres, poussait de gros soupirs, répondant par sa mimique « Ces choses-là ne se disent pas entre honnêtes gens. » En sorte qu'on savait à quoi s'en tenir. Philippe, qui paraissait plongé dans son récit, l'interrompit pour me dire « Mais peut-être te donnais-je trop de détails ?»« C'est tout le drame !» lui répondis-je. Il dit « En effet, du reste, le dénouement approche. »